électronique jamais atteint.
Dernier avertissement
aussi aujourd'hui,
l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément réunion.
Ce n'est pas une émission de radio. C'est un pli, un espace d'apparition. C'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'oiseau, l'étoile, l'horloge vous répondront « Il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse, de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. »
Enivrez-vous, ça va être un petit peu le mot d'ordre aujourd'hui, puisqu'on a décidé de consacrer cette émission au vin et aux viticulteurs et à leur rapport... pas toujours en bon terme avec la police, aux viticulteurs et leur métier un petit peu et leur rapport à la terre, et puis à nous, notre rapport au vin, à notre rapport à l'alcool, à comment faire de l'alcool, qu'est-ce que c'est la répression de l'alcool, tout ça.
Et on voulait juste aussi s'excuser pour le petit foirage du début, mais on se disait que c'était quand même le moment de repasser l'introduction assez forte en émotion qu'on a eue la dernière fois. Donc voilà, d'ailleurs, on va ouvrir une petite bouteille à l'occasion. Alors, est-ce que...
Pour célébrer cette petite émission, c'est quoi qu'on se déguste
du
aujourd'hui?
Grévé Chambertin.
Du quoi?
Du Grévé Chambertin.
Du Gevrey Chambertin. Parce qu'il est le seul, il n'est pas bourguignon, notre ami aujourd'hui.
Il est sommelier, c'est tout.
Du Gevrey Chambertin de 1996, et c'est ce qu'on va se boire tout le long de l'émission aujourd'hui en vous parlant. Ça y est, elle est débouchée.
Bon, vas-y, moi, on veut bien une petite lampée pour le goûter.
Allez.
Ah, nickel.
Merci.
Bon, on va tous se servir.
Ouais, puis on va quand même attendre pour trinquer, quoi.
Du coup, cette semaine, on va vous parler d'abord des viticulteurs et de leur rapport à la police.
Je trouve que tu lui en as mis plus que moi.
Et puis ensuite, dans une deuxième partie, on vous parlera plus de l'ivresse, du rapport un peu historique de répression à l'ivresse. Et puis de comment un petit peu faire du vin nous-mêmes. Comment on peut avoir un autre rapport aujourd'hui à l'alcool. Alors... Par ailleurs, on a reçu une grosse liste cette semaine de chansons de détenus de la maison d'arrêt de Dijon qui voulaient qu'on passe dans l'émission. Du coup, on ne pourra pas toutes les passer, on va en passer une en fin d'émission. Et puis, bah, on sait qu'ils nous écoutent et qu'ils attendent qu'on s'adresse un peu à eux.
Et du coup, on vous laisse dire que c'était le moment de trinquer à leur santé aussi.
Voilà, c'est pour eux du coup,
ouais.
Cette émission un peu. Et
chin
puis on espère qu'on buvra aussi avec certains d'entre eux, on boira avec certains d'entre eux du Gevrey Chambertin de 96, on leur en laisse quelques bouteilles de côté quand ils sortiront.
Ouais, grave.
S'ils passent au studio, il y aura toujours une bouteille pour eux de côté, quoi. Bon, on va commencer par s'écouter une petite chanson, quoi. On va écouter Brel, l'ivrogne.
Encore un et je vais, non, je ne pleure pas, je chante et je suis gai, mais j'ai mal d'être moi, ami rempli mon verre, ami rempli mon verre. Buvons à ta santé. Toi qui sais si bien dire que tout peut s'arranger, qu'elle va revenir. Tant pis si tu es menteur, tavernier sans tendresse, je serai sous dans une heure, je serai sans tristesse. Buvons à la santé, des amis et des rires que je vais retrouver, qui vont me revenir. Tant pis si ces seigneurs me laissent à terre, je serai sous dans une heure, je serai sans colère. Remplis mon verre encore un et je vais encore un et je vais non je ne pleure pas je chante et je suis gai mais j'ai mal d'être moi ami remplis mon verre ami remplis mon verre. Buvons à ma santé, que l'on boive avec moi, que l'on vienne danser, qu'on partage ma joie, tant pis pour les danseurs, je suis seul sous la lune, mais serai sous dans une heure, mais serai sans rancune. Buvons aux jeunes filles qu'il me reste à aimer. Buvons déjà aux filles que je vais faire pleurer. Mais tant pis pour les fleurs qu'elles me refuseront. Je serai sous dans une heure, je serai sans passion. Amis, remplis mon verre encore un et je vais encore un et je vais non. Je ne pleure pas, je chante et je suis gai, mais j'ai mal d'être moi. Ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre. Buvons à la putain qui m'a tordu le cœur. Buvons à plein chagrin, buvons à pleine pleurs, et tant pis pour les pleurs qui me pleuvent ce soir. Je serai sous dans une heure, je serai sans mémoire. Buvons nuit après nuit, puisque je serai trop laid pour la moindre Sylvie, pour le moindre regret. Buvons puisqu'il est l'heure, buvons rien que pour boire. Je serai bien dans une heure, je serai sans espoir. Amis, remplis mon verre, encore un oui je vais, encore un oui je vais. Tout s'arrange déjà, je chante et je suis gai. Amis, remplis mon verre, amis, remplis mon verre, amis, remplis mon verre, amis, remplis mon verre.
Bah moi dans mon verre du coup il y a ce Gevrey Chambertin. Et qu'on n'a pas tous encore goûté.
Vas-y, t'es doué en commentaire de vin, du coup t'as qu'à commencer.
Ah là, c'est un peu dur en direct comme ça, j'ai jamais fait. Moi je le trouve assez bon, je le trouve un peu dur quoi, râpeux. Parce qu'il est un peu vieux et qu'à mon avis il aurait fallu l'ouvrir et l'aérer.
Et en même temps,
mais
il paraît que...
on aurait loupé nos petits bruitages du début si on avait fait ça, du coup...
Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, il paraît que du vin vieux, d'habitude, il est passé en goût, alors que là, je trouve qu'on sent quand même assez bien les arômes encore, quoi.
Ouais, mais il est dur, parce qu'à mon avis, si on l'avait ouvert, ça l'aurait... Je sais pas, ça l'aurait aéré un peu, et cet aspect un peu tannique qui trappe la langue comme ça, il aurait été moins présent, et du coup, on aurait plus senti les fruits et les trucs comme ça, quoi.
Mais sinon, ce que je propose, c'est qu'on s'en resserve un verre en fin d'émission, et comme ça, on verra si après...
On rechantera « Ami, remplis mon verre », c'est ça.
Exactement. Ouais. Si après une heure d'émission, c'est mieux,
meilleur,
quoi.
Ouais, on fera ça. Okay. Bon, on va commencer par vous raconter l'histoire de la révolte des vignerons en 1907. Parce que c'est un truc un peu connu, cet épisode de Narbonne, des vignerons qui se sont insurgés contre le gouvernement, et particulièrement contre Clémenceau, qui était le chef du gouvernement à ce moment-là. Alors, à la fin du 19e siècle, il y a une invasion de phylloxéra, qui est une bactérie qui a atteint le vignoble français d'une manière hyper vénère et qui a décimé les vignes d'une manière assez massive, quoi. Et du coup, la production de vin chute, ça met l'économie française en crise, etc., etc., quoi. Donc cette révolte, elle arrive au début du XXe siècle, en 1907. Du coup, on est à la suite de ça. Il y a eu plein d'années un peu dures pour pas mal de vignerons. Et début du XXe, on est à l'inverse dans une crise de surproduction. Parce que ça y est, tous les vignobles sont repartis, même si les économies n'allaient pas bien. Tout d'un coup, on se remet à produire plein de vin. Et il y a des importations du vin d'Espagne et du vin d'Italie qui se font, du coup, qui concurrencent le vin sur le marché français. Et en plus, on commence à capter cette technique de rajouter du sucre dans le vin pour pouvoir, faire plus de quantité de vin, du coup ne plus se servir pour faire de l'alcool seulement du sucre naturel qui est dans le raisin, mais commencer un peu à modifier en fait cette espèce de nature du vin en rajoutant du sucre pour produire plus de quantité, et ça fait du vin moins bon en fait. Et je sais pas, Mac, tu disais que ça avait peut-être un rapport avec le fait qu'il fallait un peu produire plein de vin pour...
En tout cas, ouais, ça arrive à un moment donné où on a planté pas mal de vignes dans le sud-ouest notamment pour... nourrir pour envoyer pas mal de cargaisons dans le nord, notamment où il y a pas mal de populations, notamment beaucoup d'ouvriers et qui sont des consommateurs de vin à cette époque-là. Et c'est un peu des plantations qui ont été faites à dessein.
D'accord. Et du coup, il y a toute l'industrie du vin, enfin toute du coup l'agriculture du vin dans le sud-ouest de la France, qui est mise en crise par cette surproduction de vin, quoi.
Et il y a un... Mais alors attends, je comprends pas, ce qui met en crise, c'est la surproduction ou c'est la bactérie ?
Non, en fait, il y a eu cette bactérie à la fin du 19e siècle. Je disais juste ça pour resituer un peu que ça traînait encore dans les têtes, que ça avait été des années difficiles pour les vignerons. Là, au contraire, on a une crise de surproduction. On produit tout d'un coup trop de vin, quoi. Et il y a ce truc de sucrage, il y a ce truc d'importation. Et du coup, les prix du vin baissent sur le marché. Et du coup, les vignerons vont se révolter contre ça.
Et du coup. Et c'est les vignerons exclusivement du sud-ouest ou ça concerne aussi?
Non, je crois. Je sais pas trop, quoi. Et voilà, du coup, il va y avoir ce gros mouvement massif contre le gouvernement qui, pour obtenir des lois qui vont réguler le sucrage du vin et pouvoir faire remonter le prix du vin. Bon, la lutte, en l'occurrence, moi, je me sens pas très proche de ces revendications-là, quoi, mais c'est plutôt l'espèce de d'intensité qu'a pris cette lutte qui m'intéresse dans cette histoire, quoi. Donc en 1907, il y a Marcelin Albert, qui est espèce de tête de file de ce mouvement-là, qui envoie un télégramme à Clémenceau et il lui écrit « Midi semeur, au nom de tous, ouvriers, commerçants, viticulteurs, maris sans espoir, enfants sans pain, mères prêtes au déshonneur, pitié. Pitié encore pour nobles défenseurs républicains du Midi qui vont s'entre-déchirer dans combat sanglant. Preuve, fraude est faite. La loi du 28 janvier 1903 la favorise. Abroger cette loi, voilà l'honnêteté. Devoir, gouvernement, empêcher choc. S'il se produit, les clés ouvriront porte prison, pourront jamais rouvrir porte tombeau. » Le style télégramme est un peu éloquent, quoi. Du coup, Marcel Albert, c'est un comédien, cafetier, vigneron qui lance cette révolte. Et en mars 1907, il y a une grande marche qui est organisée de 87 viticulteurs, je crois, qui marchent sur Narbonne et qui se mettent à chanter dans Narbonne le chant « La Vigneronne » qui va devenir l'hymne de cette révolte qui, à ce moment-là, va commencer à s'appeler « La Révolte des Gueux ». Et du coup, ils commencent à aller à la préfecture, ils demandent des entretiens avec des préfets, etc., pour obtenir une régulation de ces trucs de sucre dans le vin. Alors il y a plein de composantes différentes dans ce mouvement, quoi. Il y a les occitans qui demandent les vignerons un peu occitans qui demandent la séparation de l'Occitanie, du Languedoc, etc., de la France. Il y a des gens qui font ça plutôt par un aspect qu'aujourd'hui on appellerait écolo, mais qu'on peut plus vraiment, qu'à l'époque qui s'appelait pas comme ça, mais de dire voilà, on veut du vin naturel, etc. Et puis il y a aussi une forte composante corporatiste de dire on se défend, nous vignerons, un peu syndical, quoi. Et ces différentes composantes restent des fois sont un peu en contradiction les unes après les autres. Donc le mouvement ne cesse d'augmenter jusqu'en juin 1907, et il y a à ce moment-là des milliers de gens dans les rues, à chaque fois qu'il y a des manifs, des grosses manifs, etc. Et tous les mairies, enfin, il y a plein de mairies du Midi qui se mettent à annoncer que si le gouvernement ne fait rien, elles vont démissionner. Et en juin, il y a certaines manifestations où il y a la moitié de la population du Languedoc qui manifeste, quoi. Donc c'est vraiment des trucs de malade, tout le monde dans les rues, quoi. Et à ce moment-là, il y a Féroul, qui est le maire de Narbonne, qui démissionne en protestation, parce qu'ils estiment vraiment que tout ça, ça va faire chuter toute l'économie de la région, quoi, de toute l'Occitanie. Et il adresse ce message: citoyens, citoyennes, je tiens mon pouvoir de vous, je vous le rends, la grève municipale commence. Alors, je trouvais ça chouette, cette idée de grève municipale, quoi. Comme si les maires aussi pouvaient se mettre en grève et que tout d'un coup, pouf, le dysfonctionnement classique de la politique se retrouve mis à mal, quoi. À partir de ce moment-là, grosse répression sur toutes les manifs. Il y a des gendarmes massivement qui viennent arrêter plein de gens. Entre autres, du coup, Marcelin Albert, là, dont on parlait. Et ils essayent d'arrêter aussi Féroul, là, le maire qui vient de démissionner. Et la foule essaye de les bloquer à différents moments. Gros affrontements à plein de moments. Narbonne est complètement mis en état de siège. Il y a plein de rues dans lesquelles se construisent des barricades. La préfecture est prise d'assaut. Enfin, c'est vraiment gros bordel dans Narbonne. Et le soir de cette journée où Féroul est arrêté, etc., la cavalerie perd un peu la tête et elle tire sur la foule. Et il y a deux morts, dont un ado qui a 14 ans. Alors suite à ça, là, ça décuple encore plus le mouvement. Il y a plein de conseillers municipaux qui démissionnent partout dans le Midi. Il y a plein de préfectures qui sont attaquées par les viticulteurs. À Perpignan, par exemple, la préfecture est attaquée, elle est pillée et elle est incendiée. Et le préfet se réfugie sur le toit de la préfecture pour essayer de s'échapper. Et au cours de toutes ces manifestations, il y a encore 5 morts. Et qui donnent lieu à des enterrements gigantesques. Il y a 10 000 personnes à l'enterrement d'une jeune fille qui a 20 ans qui s'appelle Julie. Quoi. Et ça, tout cet épisode-là, il se finit un peu en apogée sur l'épisode du 20 juin où il y a 500 soldats qui se mutinent, qui pillent l'artillerie et qui partent à Béziers en signe de protestation parce qu'eux, ils veulent pas tirer sur la foule des viticulteurs et du coup, ils rejoignent le mouvement en rapportant des armes, en rapportant plein de choses, quoi. Là, le gouvernement se dit « Oula, ça commence à craindre un peu pour nous si les militaires nous lâchent aussi ». Dans la rue, ça continue, grosse insurrection. Les voies ferrées sont bloquées et du coup, les convois militaires peuvent pas remplacer les militaires qui viennent de déserter un peu. Il y a même des sous-préfets qui sont pris en otage. Bon là, grosse décision au gouvernement, on se dit stop, on arrête. Et du coup, le 23 juin, il y a une loi qui est votée contre justement ce qu'ils ont appelé la chaptalisation des vins. Et du coup, une loi qui va protéger les vins naturels et arrêter ce truc de sucrage des vins, quoi. Enfin, le réglementer. Voilà un peu pour cette histoire. Et du coup, suite à ça, on voulait faire un petit signe. On a trouvé cette petite vidéo du CRAV, qui est le Comité Régional d'Action Viticole. Donc ça, c'est tout actuel. Ça a commencé dans les années 70. Et leurs dernières actions, elles remontent à 2013. Du coup, c'est un comité d'action qui est, pareil, corporatiste des viticulteurs. Et même, on se sent pas très très proche d'eux dans ce qu'ils portent, mais il y a cette petite vidéo qui raconte un petit peu leurs méfaits qu'on a trouvé rigolote et que du coup, on vous envoie.
Madame, Monsieur, bonsoir. Le comité régional d'action viticole est-il en cours de radicalisation? Sans nul doute, à l'écoute de l'enregistrement qui nous a été remis sur cette cassette, plusieurs hommes cagoulés, l'un d'eux lit un communiqué, véritable appel à la radicalisation avec une référence à 1907 et un ultimatum au président de la République, une nouvelle étape après des mois de rendez-vous manqués, de promesses plus ou moins tenues, Émilien Jubineau.
Peuple vigneron. Des visages dissimulés, des hommes muets, un parcours à l'aveugle dans un véhicule aux vitres obstruées, le commando du comité régional d'action viticole, le CRAV, a déployé un maximum de précautions pour organiser sa conférence de presse clandestine. Nous sommes dans l'arrière-pays audois où Héroltais. Il est 23h30, quelques extraits de la déclaration.
Nous demandons à Monsieur le Président de la République de tenir ses promesses électorales, car si par hasard Monsieur Sarkozy n'œuvre pas dans le sens des intérêts viticoles, il portera l'entière responsabilité de ce qui se passera. Vignerons, nous vous appelons à vous révolter. Nous sommes au point de non-retour. Soyez les dignes repentants des révoltés de 1907 où des gens sont morts pour permettre aux générations futures de pouvoir vivre de leur labeur, faisant en sorte que nos enfants puissent connaître la viticulture. L'ultimatum, si dans un mois, rien n'a changé et que les prix du vin ne sont pas repartis à la hausse, les vignerons sortiront du maquis et passeront à l'action. Merci. Bon imbibre de notre métier.
Depuis quelques mois, les viticulteurs du Languedoc-Roussillon ont tout fait pour attirer l'attention sur leur situation. Ils sont montés à Paris en tracteur, visités pacifiquement des négociants. Lors d'un passage de Nicolas Sarkozy dans l'Hérault, rien n'est arrivé. Le vin se vend toujours à 50% de son prix de revient. Comme solution à la crise, Bruxelles a répondu par le mot « arrachage ». Alors les vignerons sont retournés à leurs vieux démons. Saccage de supermarchés, de radars. Et même si l'un de leurs commandos a été arrêté en flagrant délit, ils menacent d'en découdre en lançant cet ultimatum. L'avertissement est proféré par des jeunes viticulteurs. Il montre aussi qu'une nouvelle frange de vignerons, composée de jeunes, tente de prendre les opérations des CRAV en main.
Voilà, et du coup, cette histoire du craft qui avait fait un petit peu de bruit à l'époque, elle est, je pense, significative du fait que les vignerons, ça constitue aujourd'hui un corps de métier qui est, dont l'État et le gouvernement a assez peur, mais de la même manière qu'ils ont assez peur des agriculteurs, par exemple, quoi. C'est un corps de métier qui savent potentiellement que si jamais ils se soulèvent contre le gouvernement, il peut vraiment se passer des choses... Enfin, ils ont un grand pouvoir, quoi, et sur l'économie et en termes de matériel, de tracteurs, etc., qu'ils peuvent utiliser pour dans les affrontements ou des choses comme ça. Et une des autres preuves qu'on a eues, nous, récemment de ça, c'est les lourdes poursuites qui pèsent sur un monsieur qu'on a rencontré il y a une dizaine de jours, qui est viticulteur dans la Côte d'Or, mais ça avait fait pas mal de bruit dans le bien public et puis dans les journaux nationaux. Un viticulteur qui a refusé de traiter ses vignes contre la flavescence dorée. La flavescence dorée, c'est une bactérie qui est en train de courir en ce moment un peu dans les vignes, mais qui se propage pas tant que ça, d'après lui. Et du coup, lui, il trouvait que, en fait, le risque que ses vignes soient atteintes de la flavescence dorée était vraiment très limité, parce que le foyer d'infection était très loin de ses vignes, etc. Et que lui, il était en bio, et que c'est très important pour lui de faire du vin biologique. Et le traitement contre la flavescence dorée, c'est quelque chose de vraiment super nocif pour les vignes. Et du coup, il a refusé de traiter ses vignes contre ça. Et pour un si petit acte de révolte, en fait, ce monsieur, il encourt de très lourdes poursuites aujourd'hui, quoi. Il risque des peines de prison. Bon, après, il les aura pas, mais la loi prévoit des peines de prison contre lui. Et puis, il va devoir peut-être payer des très lourdes amendes. Il y a son procès qui aura lieu le 24 février à Dijon, à la cité judiciaire, et je crois qu'il appelait à un rassemblement un peu massif pour venir le soutenir ce jour-là. Donc cet épisode, pour nous, enfin la lourdeur des peines qu'il encourt était pour nous significatif de à quel point aussi l'État, le gouvernement, il déconne pas là-dessus et qu'il veut surtout pas qu'il puisse y avoir de résistance face à lui dans ce domaine-là. Voilà.
Donc voilà, donc alors après les vignerons de Navarre, de Bourgogne, de France, et ben on va aller voir pas les vignerons mais les gens qui font de l'alcool ailleurs. Et donc on va se tourner du côté des Doors avec une chanson Alabama Song qui s'appelle qui peut s'appeler aussi Whiskey Bar, où justement les musiciens et le chanteur parlent un peu de ces nuits sans fin où on erre un peu comme ça suspendu à l'ivresse. Et donc du coup je vous laisse vous suspendre à votre tour.
Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die, I tell you we must die, I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die.
Oui, mais vas-y.
Alors, cette deuxième partie de l'émission, on voulait la consacrer un peu plus au rapport à l'ivresse en général dans notre société. Alors, ça demanderait, pour comprendre un peu l'histoire de la répression de l'ivresse, ça demanderait des analyses un peu plus poussées que nous, ce qu'on va faire ici, qui est un peu simplement des pistes à étudier. Mais mettre en avant déjà le fait que pendant longtemps, l'ivresse et le vin, par exemple, étaient considérés comme des choses qui étaient bonnes pour la santé. Et c'était des choses qui étaient plutôt mises en avant. Le vin avait un espèce de rapport sacré, puisque c'était le sang du Christ, ou il y a des choses comme ça. Et puis même, en fait, dans les campagnes de pub qu'on pouvait voir, enfin, je sais pas si on peut appeler ça publicité, quoi, mais les messages qui étaient véhiculés pendant longtemps, c'était ceux plutôt que, bon, un verre de vin par jour, ça tient en forme, que l'agneau, c'est le meilleur médicament qu'on puisse avoir, etc., quoi. Et du coup, on voit bien qu'il y a un moment dans notre histoire où ce rapport-là, il a chaviré. Et où aujourd'hui, on nous bassine plutôt avec des campagnes de pub sur le fait qu'il faut pas trop boire, qu'un verre, c'est machin, enfin, qu'un verre, c'est déjà trop, etc., quoi. Du coup, certainement, ce basculement, il vient des problématiques de santé publique, quoi, des moments où la pensée étatique, la pensée du social essaie de prendre en main des problématiques de santé publique et d'essayer de mettre en œuvre des choses de prévention pour, je sais pas, d'une certaine manière, dresser aussi les gens, quoi, leur expliquer qu'est-ce qui est bien ou pas de faire pour leur propre santé, quoi. Et pour moi, il y avait une chose un peu importante aussi dans la répression de l'ivresse, c'était le fait que pour fonctionner aujourd'hui, la justice, elle doit s'appliquer sur le postulat qu'elle a face à elle des individus qui sont des sujets rationnels, c'est-à-dire qui pensent suivant, qui ont toute leur tête, qui pensent suivant une certaine raison, quoi, une raison commune, universelle, que tout le monde peut partager. L'idée que la loi est connue de tous, etc., quoi. Et pour fonctionner, elle a rencontré comme ça, au fil des siècles, plusieurs problèmes, quoi. Qu'est-ce qu'on fait face à la folie? Quelqu'un qui est fou, est-ce qu'on peut vraiment lui appliquer les lois de la même façon que les autres personnes? Du coup, on a inventé toute cette psychologisation, en fait, de la justice. L'idée qu'aujourd'hui, on peut envoyer les gens soit en prison, soit en hôpital psychiatrique, suivant les traitements, la place de la psychiatrie dans la justice, etc. Et pour moi, l'idée que l'ivresse, c'est aujourd'hui une circonstance aggravante dans un procès, c'est-à-dire si quelqu'un a bu avant de commettre un délit, eh ben, ça va aggraver sa peine, c'est vraiment lié à ça. On savait pas trop quoi faire face à l'individu qui disait « Oui, mais j'étais pas rationnel quand j'ai effectué cet acte, j'étais sous l'emprise de l'alcool, et il a fallu mettre des cases qui permettaient de dire que l'alcool, en fait, ça n'excusait rien, ça aggravait. » Ce qui conduit toujours à des petites scènes un peu rigolotes dans les tribunaux, si vous avez déjà assisté à ça. Enfin, je dis rigolote, mais c'est pas du tout drôle, en fait, pour les gens qui sont en train de subir ça, mais ces petites scènes un peu paradoxales, des gens qui sont en train de s'expliquer en disant « Oui, j'ai fait ça, mais en fait, j'étais bourré, mais en fait, j'avais bu, et c'est pour ça », et qui essayent de mettre ça en avant pour les excuser, et des juges qui répondent, et du coup, des gens qui sont en train de s'enfoncer, parce que les juges leur répondent que bah, c'est encore pire d'avoir fait ça parce qu'on avait bu, quoi. Alors que pour nous, dans le sens commun, évidemment, que ce qu'on fait quand on a bu, bah, des fois, on l'assumerait pas, quoi, le reste du temps, quoi. Voilà.
Et donc du coup, sur un peu cette thématique de la répression, on va vous présenter un étrange personnage, le rat des caves.
Ouais, le rat de cave, c'est ainsi que depuis très longtemps, on nomme le fonctionnaire du ministère des Finances chargé de la surveillance des alcools et de la répression des fraudes. Comme il a l'autorisation de visiter les caves, bah, le sobriquet le rat de cave n'a pas tardé. Il contrôle, au nom de la régie de la production et de la vente des alcools, et des spiritueux. Son métier, c'est parfois un peu difficile, et inévitablement, il engendre des inimitiés parmi les bouilleurs de crue, parmi les producteurs industriels et parmi les commerçants contrôlés. Comme le gabelou au temps de la gabelle, tout le monde, les oiseaux, les insectes, les chiens à l'attache, annoncent son arrivée quand c'est la saison de distiller dans les campagnes. Parfois, l'un ou l'autre fautif se fait dresser une contravention pour une action illégale quelconque. Alors le téléphone arabe sonne partout, tous les bouilleurs de crue s'exaspèrent en silence et surveillent les allées et venues du gaillard, abandonné au fil des aventures, parfois pénibles, parfois cocasses. Dans tous les villages, on raconte une histoire de rat de cave, vraie ou fausse, qui porte à rire. C'est si bon de pouvoir rire à son saoul. Et en voici une, justement, que m'a raconté un ami franc-comtois. Bon, je peux pas garantir qu'elle soit tout à fait authentique, mais il se pourrait qu'elle soit vraisemblable malgré sa singularité. Dans cette commune-là, début décembre, un parfait soleil d'Austerlitz égayait le paysage et arrangeait bien 3 ou 4 bouilleurs de crue distillant dans un local communal situé à un croisement juste en face du domicile du maire. Toutefois, vers les 10h du matin, une deux chevaux couleur crème s'arrête devant le local. Un homme chapeauté en sort et entre au local. Merde, c'est le rat de cave. Et tout de suite, ça questionne, ça contrôle, ça mesure et ça inscrit. Deux opérateurs négligents reçoivent le carton jaune et l'obligation d'aller à la recette du chef-lieu dès le lendemain, munis de leur portefeuille ou de leur carnet de chèques. Ça fait pas mal les beignets à chaud. Une fois le représentant de la loi parti, les langues vont bon train pour les considérations, la commisération des collègues, les menaces idiotes des exaltés. Un de ces jeunes bouillants, le gros Gustave de la Mélor, Amélie, voisin toujours vantard, toujours fuyard, ne s'exclame-t-il pas comme Clovis ?
Ah, si vous aviez vu, moi si j'avais été là, ça se serait pas passé comme ça, hein.
Et il se fait applaudir comme les résistants de la 11e heure, vous savez, ceux qui ont tué tous les Allemands en 1946. Mais il y a encore deux paysans qui distillent à domicile, l'un au bout du village et l'autre dans un petit apprenti derrière le domicile du maire. Pourvu que l'agent redouté ne revienne pas, avance le Gustave. Ce serait pas sa fête, s'il revient, on verra ce qu'on verra. Mais ironie du sort, revoilà la deux chevaux couleur crème, le bonhomme chapeauté, moment de super pour tous, disposition de combat, et le visiteur est entré chez le maire, sûrement pour prendre le Joseph Robin. Il faut faire quelque chose. Il faut agir pour qu'il ne revienne pas, ce sacré rat de cave. Plus comme cela, en plus, semer la panique au pays. Le Gustave, pris au piège de son orgueil, crie à tous.
J'ai la solution. Je vais lui jouer un sacré tour à ce bambin. Il va en faire une gueule quand il sortira et on ne verra plus jamais au village avant un sacré bon bout de temps.
Et le Gustave, transformé en malandrin, sort son couteau et crève les quatre nœuds de la voiture. Et tout le monde se cache pour admirer la suite, qui ne sera pas brillante. Car voici l'invité du maire qui sort son chapeau à la main, Gustave Blémy. L'invité n'est autre qu'un jeune prêtre qui vient d'être nommé à la paroisse. Il est venu présenter ses respects au maire et aux villageois.
Alors voilà, voilà. Donc on revient sur cette musique de Jeff Buckley, Alligator Wine. Parce que oui, on a parlé donc du vin fait avec du raisin, du vignoble, on a parlé du whisky avec les Doors, mais d'ailleurs on a une petite information comme quoi c'est pas les Doors qui sont à l'origine de cette chanson. Et maintenant on va parler du vin d'alligator, ou enfin, non, on va pas vraiment parler du vin d'alligator, on va parler du vin qui est fait avec d'autres types de fruits.
Avec des alligators.
Ouais, on peut le faire avec des alligators aussi, sûrement que c'est possible. En tout cas, les gens qui font... Enfin, c'est pas du vin d'ailleurs, justement. Les gens qui font cet alcool-là, ils sont à peu près à toutes sortes de supercheries et toutes sortes de boissons assez folles. Et donc, du coup, pourquoi pas de la petite goutte d'alligator ? Je pense que ça doit être assez fameux. Donc voilà, donc oui, c'est pour parler un peu de, en fait, cet alcool de l'ombre, l'alcool qu'on a connu très très longtemps dans les villages, avec avec l'alambic communal, avec enfin plein de d'espaces dédiés un peu à ça, et qui aujourd'hui clairement est en perdition, enfin s'exerce de moins en moins. Et donc du coup, ces gens-là, ces gens qui se faisaient contrôler par les rats des caves, ces gens qui se retrouvaient pour distiller de l'alcool ensemble et qui revenaient un peu, disons, vacillants à la maison parce qu'ils ont respiré des vapeurs d'alcool fortes toute la journée, eh ben, il y en a encore et ils ont écrit des livres. Donc par exemple, je pense à Maurice Bidault qui a écrit un livre qui s'appelle « Contes et secrets autour de l'alambic » en 1980. Et donc le conte qu'on vous a lu tout à l'heure venait de ce livre. Et il a écrit aussi un texte que j'ai trouvé assez bien sur ces personnages un peu fous que sont les bouilleurs de crue. Du coup, je vais essayer de vous faire part des passages un peu marquants de ce texte. Bouilleurs de crue, c'est moi, c'est vous, c'est l'infinité des petits propriétaires de vergers qui voudraient distiller le produit de leur héritage, de leur travail, pour leurs besoins personnels, sans que l'État, disons, le législateur asservi, y mette une légale opposition. Nous connaissons tous les ennemis puritains des bouilleurs de crue. Nous connaissons aussi la volonté de courage. Nous connaissons aussi la volonté, le courage, la persévérance des bouilleurs de crue de partout qui luttent depuis 15 ans contre la loi perfide de 1965 qui a été restrictive pour 90% d'entre eux. À l'heure actuelle, les bouilleurs de crue d'ici et d'ailleurs bondissent dans les brancards de la pression gouvernementale. Ils se sont réunis en association pour exiger la liberté d'antan, le respect de leur dernier droit avant de se taire, celui bien moindre de pouvoir distiller une partie minime de leurs fruits gratuitement pour une quantité forfaitaire de 1000 degrés d'alcool pur. Dans telle ou telle région où la rancœur est manifeste, il y a des frictions inattendues qui obligent les administrations à réfléchir, à repenser la loi. Comme d'habitude, les parlementaires font des promesses grandiloquentes à la veille des élections. Après, ils se mettent à régime sec. Finalement, devant la résistance des opposants connus et occultes, les bouilleurs de crue, au-delà de leur colère justifiée et soutenue, ceux de ma région au moins, sont saisis, semble-t-il, par un vertige suicidaire. Ils se découragent. N'est-il vrai qu'au moins 40% des bouilleurs de crue normaux de mon secteur n'ont pas mis de fruits en fermentation cette année, de peur d'avoir des histoires avec la régie des alcools ? Des tonnes de prunes, de pommes, de poires sont restées à pourrir sous les arbres. Scandale, donc, pour les petits producteurs contestataires ou piètre victoire pour les partisans obstinés du statu quo. En 1930, il y avait 20 bouilleurs de crue dans mon village. Il en restera 2 ou 3 cette année. Donc dorénavant, on ne pourra plus distiller que très difficilement. On va donc couper les arbres fruitiers et il n'y en aura plus. Les jeunes gens et les snobs dédaignent la bonne goutte du pays préférant les spiritus aux belles étiquettes dorées. Tout le monde veut condamner l'alcoolisme, cette calamité des siècles modernes, mais à peu près tout le monde succombe à la tentation. Malgré tout, les délateurs, on peut regretter la disparition brutale des petites gouttes, qui, sans en abuser, font encore la joie des fins repas intimes ou de société. Comment ne pas garder sur le palais, à peine humide, le souvenir parfumé de ces alcools, dits défendus, soumis actuellement à des taxes spéciales et exorbitantes ? Framboises, alices, prunelles, cynorhodons, sureaux, coings et autres petits fruits cueillis dans le calme des buissons sous le ciel immense où chevauchent les nuées et les rêves d'air pur de la retraite où ronflent en cadence les coups de vent qui se moquent des pudiques tempéraments. Mes confrères bouilleurs de crue, où allons-nous maintenant ? Peut-être nos vedettes du Parlement dessécheront-ils les béniteurs de Notre-Dame ? Peut-être supprimeront-ils la faveur des 1000 degrés aux derniers bouilleurs de crue ? Par contre, et cela nous révolte, un quiconque avec le fric en main peut déjà aller librement se munir de toute quantité d'alcool en toutes ses variétés commerciales chez le commerçant de son choix. Qu'on ne vienne pas nous raconter des boniments. Là est la vraie source de l'alcoolisme actuel. L'État lui-même et les distillateurs intouchables, groupés en véritable trust, voilà les vrais entreteneurs de l'alcoolisme à travers le monde. Ajoutons avec un peu d'humour que les tenants exacerbés de la loi réglementant la production de l'alcool, comme ceux-là qui surveillent son application, ne sont pas tous inscrits à la Croix-Bleue et que leur bar personnel ne contient pas que de l'eau de Lourdes ou de la fleur d'oranger. En ce qui me concerne personnellement, Je ne suis pas plus buveur, ivrogne ou alcoolique que quiconque. J'aime déguster un élixir, celui produit par mon savoir, par ma patience, par mes peines et par ma passion. Habité par le penchant irrésistible de distiller les petits fruits du verger et des forêts, je lui dois les plus beaux remous de satisfaction après une longue vie de service à la terre, des hommes et des traditions. Maintenant, arrivé au troisième âge, avancé qui me sourit encore, je suis au service de mes amis, hommes ou dames, qui m'accordent leur visite. J'ai le plaisir merveilleux de pouvoir leur offrir, ainsi qu'à tous mes visiteurs dépourvus de bassesse, le produit de mes peines et de mes plaisirs, soit
le petit calice d'alcool de mon cru. Grande et belle image pour ceux qui savent ce qu'il représente comme satisfaction intérieure et profonde. Nous, les bouilleurs de cru, refusons en masse toute ségrégation. Voulons rester libres et régal vêtus, avec le droit d'exister dans la nation. À tous mes confrères, bouilleurs de cru, d'Anjouan, de France, de Navarre et d'ailleurs, à tous les tempérants du monde, pour qu'ils délectent toujours la bonne eau de source, et nous laisse le breuvage de Satan. Donc voilà, c'était un petit texte sur les bouilleurs de cru. Donc vous l'avez compris, c'est ces gens qui fabriquent encore ce qu'on peut appeler la gnôle, la goutte, dans différentes régions de France. Et donc du coup, pour continuer un peu l'émission, justement, on voulait parler un peu de gens qui eux aussi se sont rapprochés de, enfin, sont retournés à cet art de la fabrication d'alcool. Et donc du coup, qui sont retournés sur des terres, sont retournés dans des vergers, etc., pour se réapproprier un peu ce savoir-là.
Et du coup, moi, je voulais vous lire le texte d'inauguration des vignes qui ont été plantées à Saint-Jean-du-Tertre, sur la ZAD, cette zone qui est occupée à Notre-Dame-des-Landes. Des gens qui ont décidé de remettre en culture et de planter de la vigne là-bas. Donc voilà le texte qu'ils ont distribué le jour où ils ont planté leur vigne. Le grand banquet. Sur les ruines de la ferme de Saint-Jean-du-Tertre, un comité de soutien de Rennes veut installer des ruches, planter de la vigne et semer du blé. Nous avons l'intention de cultiver et d'élever à 100 km de chez nous. Cela peut sembler absurde, mais pour nous, vivre cette expérience sur la ZAD est chargé d'un sens profond. Nous ressentons un sentiment d'étrangeté avec les maisons dans lesquelles nous vivons et que nous n'avons pas construites, avec la nature que nous achetons, avec la nourriture que nous achetons et qui vient de nulle part. La condition postmoderne nous sépare de tout, bâtit une société qui fait tout à notre place, qui s'occupe de notre sort sous le voile magique du savoir des experts. Nous vivons pour que la situation s'inverse. Nous ne sommes pas paysans, mais nous sommes attirés par l'appropriation de techniques et de savoirs vitaux, tout comme nous ne sommes pas charpentiers, mais désirons construire nos maisons. À la ZAD, une terre est en partage. Une brèche est ouverte et nous nous y engouffrons. Nous sommes attachés au fait de semer la ZAD, non pas par un amour de la terre ou du blé en soi, mais par celui des chemins qui nous y conduisent. Les rencontres que nous faisons n'y sont pas pour rien dans le plaisir que nous prenons à mener cette installation. Nous sommes paysans sans racines à la ZAD, car nous nous sommes attachés. Si nous avons décidé de cultiver, c'est parce que nous avons choisi de prendre part au conflit qui est en train de naître sur les questions de la terre et de son usage, et qui va s'accentuer lors de l'abandon du projet. Au-delà de la possibilité de tendre à une autonomie alimentaire, de partager le travail agricole et la distribution des récoltes, il s'agit de construire les conditions politiques et existentielles pour assumer les conséquences d'un décrochage réel et durable avec les institutions. C'est ce que nous entendons par processus de communisation des terres. Planter des vignes, semer du blé, ou installer des ruches sur des terres prédestinées à l'élevage relève sans doute d'une certaine inconséquence. Mais la terre argileuse de la ZAD ne nous étouffe plus. Elle a fait germer des mouvements, elle en sème de nouveaux. Celui du végétal qui s'extirpe de la graine, celui du fruit porté par la vigne, nourri par l'eau et le feu, et celui du bourdonnement de l'abeille qui brouille les messages, les voix, les laissant à la limite du saisissable. Si cette terre, entretenue par ceux qui veulent la garder, peut produire du miel, du vin et du pain, on attend d'elle qu'elle nourrisse aussi des amitiés, des complicités et du commun. Nous voulons tisser un fil continu entre la graine que nous allons semer et le vin que nous allons déguster, comme un grand banquet qui commencerait au premier coup de bêche et qui ne se terminerait pas. Un grand banquet dont les formes nous échappent encore, perdues entre l'excès et la frugalité. Voilà, et ce jour-là, quand ils nous ont distribué ce texte qui expliquait pourquoi ils se sont mis à faire du vin, ils nous ont aussi distribué ce poème qui parle également du vin, qui est un poème d'Omar Khayyam, qui est un poète arabe, mais je ne sais pas de quel pays, du XIIe siècle, et qu'on va vous lire maintenant.
N'est-on qu'un peu d'eau qu'on versa dans nos reins et que le feu de la passion mit à l'air libre. Le vent dispersera notre poussière au loin. En attendant ce jour, pourquoi ne pas être ivre ? À mon verre de vin, et ce qui me chagrine est mort. Je serai riche avec deux gobelets. Je répudie et la raison et la doctrine, et je veux épouser la fille de la vigne. Un peu de vin vaut mieux pour moi que le royaume de tous les rois défunts, et mieux que tout leur trône. Chaque soupir que pousse l'amant du matin vaut mieux que les lamentations des faux bons hommes. Eh bien, chers compagnons, abreuvez-moi de vin, que de chaudes couleurs me donnent un air digne. S'il faut mourir un jour, lavez-moi dans le vin et faites mon cercueil avec des ceps de vigne. Si tu donnes du vin à boire à la montagne, elle danse. Vraiment, la vigne est sans défaut. Je ne regrette pas de l'avoir pour compagne. Comment avoir sans vin l'éducation qu'il faut ? Le printemps est venu et l'hiver est parti. Le livre de la vie a retourné ses pages. Bois du vin, sois heureux. Le philosophe a dit : le vin est l'antidote au poison de notre âge. Ne te tourmente pas en vérité à propos de ce monde qui n'est plus que ruine. Hier est passé et l'avenir est en gésine. Ignore ce qui est et n'a jamais été. Musulmane parle du vin, étant donné que selon le Coran, ce serait plutôt quelque chose qui serait interdit. Mais il faut juste savoir que le vin existe même dans les pays où cette culture musulmane est prépondérante, et que de fait le fait de boire du vin était un peu une sorte de culture souterraine dans les pays musulmans. Et c'est pas parce qu'elle était réprimée par la loi que les gens s'attenaient d'en boire.
Ouais.
C'était un choix qui leur était laissé.
D'accord.
Et donc là-dessus, on va finir par la boîte à outils. Donc c'est le moment où un peu on donne des petites astuces, des petits trucs qui pourraient vous servir dans la vie de tous les jours, ou alors pour des personnes un peu en particulier. Là, en l'occurrence, ça peut servir dans la vie de tous les jours, mais particulièrement à certaines personnes, parce que on va s'intéresser justement à la fabrication artisanale de l'alcool dans des lieux où on n'a pas grand-chose pour fabriquer de l'alcool, donc comme en prison par exemple.
Par exemple.
Ouais, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Ne voyez pas là du tout une quoi que ce soit. Et donc du coup, effectivement, ce que je lisais dans plusieurs petits, dans différents sites internet, c'était que il y a plein de substances qui sont facilement rentrables en prison, enfin qu'on peut facilement ramener en prison à la suite d'un parloir, etc., etc. Mais que par exemple les bouteilles de vin, ça c'est pas très simple, quoi, parce que c'est pas facilement dissimulable pour la fouille, etc., etc. Enfin de toute façon, ça sert à rien de vous faire un dessin. Mais que par contre l'alcool était loin d'être est loin d'avoir disparu en prison, parce qu'en fait il y a plein de gens qui ont trouvé des petits subterfuges pour fabriquer leur propre petit fût en prison. Alors il y a des recettes saugrenues, les plus attendues, elles sont à base de jus de fruits, de sucre et d'eau qu'on va faire fermenter, et les plus inattendues quand on est vraiment en déche, c'est carrément du pain qu'on met avec de l'eau et du sucre et qu'on va faire fermenter, quoi. Et donc cette fabrication artisanale, elle repose quasi exclusivement sur une autre fabrication électronique, cette fois-ci, c'est la fabrication d'un thermoplongeur. Alors là, par contre, l'électronique, c'est pas, enfin, je suis pas tout à fait au point. Donc disons juste qu'il y a plein de tutoriels sur des sites internet qui permettent de fabriquer ces thermoplongeurs et que ça n'a pas l'air très compliqué. Et ça permet en fait, dans un espace clos, d'avoir juste, grâce à l'alimentation électrique, un ustensile qui va accélérer la fermentation des liquides ensemble et donc permettre la fabrication d'alcool. Donc voilà pour ce qui était la boîte à outils de l'alcool en prison. Et je tenais à dire que c'est l'alcool en prison, c'est chouette ce truc-là de fabrication, etc., etc. Mais sûrement que ça vaut pas un bon Gevrey Chambertin, donc on va se resservir à la santé des détenus.
Parce qu'on quelqu'un qui a construit un alambic avec juste deux bidons de plastique et un tuyau, quoi. Du coup, sûrement, tous les gens qui ont envie de se remettre à faire de l'alcool, rien qu'avec du sucre, c'est possible, quoi. Très bon, mais sur le long chemin de la réappropriation et de tout ce qui nous est cher, peut-être on peut commencer par ça, quoi. Il y a sûrement des recettes faciles sur Internet, quoi.
Ça, c'est sûr. le problème des bidons, juste, c'est que c'est sûr que ça prend de la place et que l'avantage du
En prison, je vois bien que c'est pas possible, il y a aussi d'autres gens qui nous écoutent, qui ont peut-être envie de boire de l'alcool et qui peuvent pas ou qui trouvent ça trop cher, essayez de planter des vignes, faites-vous un petit alambic, mettez-vous dans la poche quelques viticulteurs en colère. Quand on n'a pas de thunes, faut être malin, quoi.
Et donc avec ce Gevrey Chambertin, on va trinquer à la faveur
de Mustapha, non?
De Mustapha, exactement, et de tous ses potes en prison, parce que quand même, on va pas trinquer juste pour une seule personne, vu que vous êtes plein à être là-bas. Et donc du coup, on va mettre la fin de la chanson qu'on avait commencé à passer.
Que c'est Mustapha qui nous a demandé, en fait. Il nous a écrit sur, il nous a pas écrit parce qu'il est en prison, mais on sait que c'est pour lui cette chanson, quoi. Elle lui est dédicacée. Et il y a d'autres gens qui nous ont écrit sur la boîte, donc à VNR at Rise Up. Pour nous demander cette chanson pour lui. Du coup, voilà. C'est Deodato, le groupe, et le titre de la chanson, c'est SOS in the Sky.
Donc, à votre santé, les gars.
Allez, à vous, à votre santé, ouais.